de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? À quoi ça sert?
Dominique Dezonnay.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Autour de la question. C'est une légende qui a traversé les siècles et qui perdure encore peut-être dans les maternités. Le nourrisson est aveugle de naissance. Il a fallu quand même attendre les années 1950 pour que certains scientifiques commencent à douter de cette affirmation. L'autorité médicale, en effet, ne concordait pas avec le bon sens des mamans croisant le regard de l'enfant qui venait de naître. Mais que voit-il? A-t-il une bonne vision? Et plus généralement, en quoi la vue des tout-petits est essentiel à leur développement. Un peu de lumière aujourd'hui dans Autour de la question sur le sujet. Comment voient les bébés avec Sylvie Chocron, neuropsychologue, directrice de recherche du CNRS, auteur du livre avec le professeur Arlette Stréry de Comment voient les bébés, paru aux éditions Le Pommier.
Bonjour. Génitale, madame Marie-Lou.
Bonjour, c'est toi Marie-Lou?
Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous aurez Marie-Lou sur vos genoux, donc elle va regarder et écouter donc les sons.
Dès les premiers mois de la vie, l'enfant communique avec son entourage. Ses moyens de communication sont variés et deviennent de plus en plus sophistiqués au fur et à mesure qu'il grandit. Des regards et des sourires d'abord.
On était parti d'un champ visuel qui était vraiment réduit. Hein.
Hé, hey, doucement là.
Ah, lui, mon papa. Ah, je vais t'en faire baver, mon papa.
C'est le jour de ma vie.
Et notre objectif, c'est d'arriver à un champ visuel normal qui fera 90 degrés de chaque côté et donc de la forcer à traiter un champ visuel de plus en plus grand.
Oh mon Dieu, c'est pas ce monstre.
Oh, qu'il est beau.
Oh, qu'elle est vieille.
Quoi, vous en occupez?
On dirait une vieille guêpe.
Et si vous l'aviez réveillée, belle maman? Et comme vous êtes sourde, vous parlez fort.
Ma petite fille, j'ai élevé les enfants avant vous. Hein?
Sylvie Chocron, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes neuropsychologue. Alors, avant de faire le point sur ce que voit bébé, on va s'intéresser à la neuropsychologie. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la neuropsychologie, c'est l'étude de nos comportements, en particulier des fonctions cognitives et des aires cérébrales qui les sous-tendent.
Donc, un petit mélange entre ce qui se passe mécaniquement et dans notre tête de façon tout à fait profonde. Alors, on dit qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux. Hein. On voit surtout grâce à notre système visuel qui est implanté dans notre cerveau. C'est un système très complexe qu'on étudie, que vous étudiez, et on peut dire qu'on apprend à voir.
Alors exactement, vous avez raison, les yeux permettent bien sûr de voir parce que sans œil, pas de possibilité de capter l'image, mais au-delà de la fonction vraiment photographique de l'œil, si nous voyons tel que nous en faisons l'expérience tous les jours, c'est parce que notre cerveau a appris à voir et on sait effectivement maintenant qu'on apprend à voir dès nos premières heures de vie et qu'on apprendra à voir tout au long de notre vie, même à l'âge adulte. Et donc, en quelque sorte, on ne voit que ce qu'on a appris à voir.
Alors, est-ce qu'il y a un centre particulier dans notre tête, une région particulière qui est consacrée à la vue?
Oui, alors on pourrait dire une région ou même plusieurs régions, puisque en fait la vision représente autour de un quart de notre cerveau en totalité, donc c'est une fonction qui est extrêmement représentée et pas seulement dans les régions qu'on attribue classiquement à la vision, qui sont les régions à l'arrière du cerveau, mais vraiment l'ensemble du cerveau participe à la vision.
Alors, tout ça doit fonctionner ensemble. J'imagine qu'il y a beaucoup de processus. Si on schématise, comment se forme la vue dans notre tête?
Alors
ça tape d'abord dans l'œil.
Alors effectivement, vos yeux reçoivent donc une information lumineuse, un signal lumineux, et à la sortie de l'œil, la scène qui s'était imprimée sur votre rétine au fond de l'œil va être complètement éclatée et transférée au cerveau sous forme d'un signal électrique. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'œil, il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de scène,
il n'y
a plus d'image,
voilà.
Il n'y a plus de lumière. Votre cerveau reçoit ce signal électrique. À charge pour lui de reconstruire ce que votre œil avait perçu. Et ce qui est très troublant, c'est d'imaginer que finalement, ce que vous avez devant les yeux n'est pas une photographie de la réalité extérieure.
On aurait bien aimé, mais c'est pas, ça marche pas comme ça, en fait.
Exactement. C'est vraiment une construction par votre cerveau à partir du signal électrique qu'il a reçu.
Un petit peu, lorsqu'on s'intéresse, par exemple, à l'informatique, aux ordinateurs, et qu'on commence à fabriquer des images sur l'écran, des images de synthèse, voilà, bah, si on regarde bien, c'est du calcul. Alors, bien sûr, le cerveau, lui, ne calcule pas, c'est du quasi automatique. On va revenir quand même, parce que ce qui nous intéresse, c'est comment voient les bébés. Alors comment explique-t-on qu'on ait fait l'impasse quand même pendant des siècles sur leur capacité à voir dès la naissance?
Alors je dirais que dans le domaine de la vision, c'est un petit peu la même chose que pour les autres fonctions. C'est-à-dire que le bébé, n'ayant pas les moyens de nous exprimer ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend du monde, comment il interprète le monde autour de lui, on avait tendance à imaginer qu'il ne percevait pas, qu'il ne comprenait pas. Et il s'est passé avec la vision ce qui se passe avec les autres fonctions. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le bébé est un être qui est déjà doté d'un certain nombre de fonctions et qu'effectivement, il n'est pas aveugle, il perçoit, même si sa perception est de moins bonne qualité, bien sûr, que celle de l'adulte.
Mais il y avait quelque chose qui gênait les médecins ou les chercheurs dans le fait qu'un nourrisson puisse voir. Il y avait quelque chose de culturel.
Alors, je pense qu'il y avait une gêne intellectuelle à imaginer qu'un bébé, dès la naissance, a un certain nombre de performances dont il est capable. Et qu'on pourrait
tester. Mais c'est pas un légume,
voilà.
On confirme.
Et je pense que les fonctions, l'étude des fonctions cognitives du bébé a beaucoup, beaucoup bénéficié de la recherche.
Quand je dis 1950, c'est à peu près cette date-là.
C'est le début de cet axe de recherche, et je dirais que ces 20-30 dernières années, on a eu de plus en plus de preuves du fonctionnement cognitif complexe des bébés, en particulier grâce à des chercheurs comme Arlette Stréry, qui est associée avec moi à ce livre, et qui a beaucoup contribué à nous éclairer sur les compétences intellectuelles, même complexes, du nouveau-né.
Alors, on a quand même besoin de cet objectif qui est l'œil. Moi, je l'appelle un objectif pour récolter des informations visuelles. Il y en a même deux objectifs. Il y a les yeux. Ça fonctionne comment, déjà mécaniquement, l'œil? À la naissance, par exemple, pour un nourrisson, c'est optimum?
Non. Alors, à la naissance, l'œil n'a pas la taille définitive qu'il aura plus tard. Donc, l'œil va continuer à grandir au cours du développement. Il atteindra d'ailleurs sa taille définitive qu'autour de 12 ans. Donc, on voit que le système visuel est loin d'être mature à la naissance. Mais c'est tout le système qui n'est pas mature. Donc, l'œil n'a pas sa taille définitive. Le cristallin ne fonctionne pas comme il devrait. Donc, il est difficile d'accommoder, d'avoir une image nette. La rétine n'est pas encore complètement développée. Donc, dans la mesure où ce sont ces cellules qu'on appelle les récepteurs sur la rétine qui assurent la bonne acuité visuelle.
Les fameux bâtonnets, là.
Exactement, les fameux cônes et bâtonnets. Effectivement, la vision du bébé n'a pas l'acuité qu'elle aura plus tard parce que la rétine n'est pas encore développée comme elle le sera au cours de la première et surtout des premières années de la vie.
Alors Sylvie Chocron, la perception visuelle, c'est ce que nous voyons du monde qui nous entoure, comme les objets ou les êtres vivants qui passent. C'est en fait les localiser dans un espace parfaitement défini. Pourtant, les images qu'impriment nos yeux sont des représentations à deux dimensions, ce qui n'est pas forcément la réalité du monde, du moins qui nous entoure. On va se contenter des trois dimensions. Certains patients, d'ailleurs, sont atteints de cécité corticale et vous les avez pris en charge à la Fondation Rothschild de Paris.
Romain est atteint de cécité corticale. À l'âge d'un mois, Romain est opéré du cœur. Il est victime d'un arrêt cardiaque. Les lobes occipitaux sont lésés. Il sort presque aveugle de l'hôpital. Et se retrouve à l'âge de 7 ans, avec une canne blanche, dans un institut médico-éducatif pour enfants atteints de déficience intellectuelle.
Il voulait me faire passer pour aveugle. En fait, j'ai un problème de vue qui me fait que je ne vois pas bien les distances. Et donc, comme il me faisait des tests, aller toucher un crayon, comme j'évaluais pas bien la distance, il me disait que j'étais aveugle et que je voyais pas le crayon. Donc, ils m'ont fait passer en braille. Et j'ai passé des mois à apprendre à utiliser une canne blanche, à me déplacer comme un aveugle.
Flora est elle aussi atteinte de cécité corticale. Elle a erré d'hôpital en hôpital jusqu'au jour où, comme Romain, elle a rencontré à la Fondation Rothschild le docteur Sylvie Chocron, neuropsychologue, la seule personne en France à traiter cette pathologie.
Ah, vous êtes vraiment la seule, Sylvie Chocron, à traiter cette pathologie. D'ailleurs, on va en parler, hein, cécité corticale.
Non, je pense pas qu'on est les seuls. On est très spécialisés parce qu'on est la Fondation Ophtalmologique Rothschild et qu'on s'intéresse donc vraiment beaucoup au rôle du cerveau dans la vision, que ce soit dans le développement normal d'un point de vue de la recherche, mais aussi en pathologie, puisqu'on a effectivement, je suis responsable d'une consultation spécialisée dans ces troubles-là. Donc on n'est pas les seuls, mais on est très investis dans ce domaine.
D'accord. Alors revenons à la cécité corticale, une pathologie assez méconnue qui fait souvent passer ses patients pour des aveugles.
Oui, exactement. Donc, c'est très difficile de comprendre qu'on peut avoir des yeux qui fonctionnent bien, qui captent donc les informations visuelles, qui les envoient au cerveau. Mais ensuite, si les aires cérébrales qui doivent traiter ce signal sont lésées, vous n'aurez pas la sensation de voir. En fait, vous perdez la conscience visuelle et vous perdez la capacité à comprendre ce que vos yeux vous ont envoyé. Et vous ne pouvez donc pas construire d'image à partir du signal qui arrive des yeux. Et finalement, au bout du compte, c'est la même chose que d'être aveugle, même si les yeux marchent bien.
Alors, d'ailleurs, le peintre Salvador Dali disait « Regarder, c'est inventer ». C'est-à-dire que les images en deux dimensions, donc qui sont imprimées par nos yeux, sont retravaillées par le cerveau. Si on voit le relief, c'est une sorte d'illusion, alors.
Oui, finalement, on pourrait même dire que la vision est une illusion, parce que ce que vous avez devant les yeux, c'est une construction de votre cerveau. Dans le domaine du relief, c'est encore plus vrai, parce qu'effectivement, la perspective, le relief, la profondeur, sont des paramètres qui vont être construits par le cerveau, à partir du petit décalage qui existe dans la projection sur chacun de vos deux yeux. Donc, pour percevoir la profondeur, il faut vos deux yeux et vos deux champs visuels, et c'est le minime décalage entre la position de l'image sur chacun de vos deux yeux qui va produire cette dimension-là. Mais effectivement, si vous n'avez pas vos deux yeux ou vos deux champs visuels qui marchent bien, vous ne pourrez pas reconstruire au niveau cortical, cérébral, la profondeur.
Alors, il faut quand même une paire d'œils. Hein. Enfin, il en faut deux, hein, voilà, pour avoir cette stéréoscopie, tout compte fait. Mais que dire, par exemple, des animaux qu'on en plus hein. Alors, ils voient en super dimension.
Alors, en fait, votre vision est contrainte, d'une part, par votre système qui capte les informations, donc par vos yeux. Si vos yeux ont un champ visuel de 360 degrés, comme certains animaux, évidemment, vous pouvez
on
voir
pense tout de suite à la mouche.
Tout l'environnement autour de vous. Donc, bien sûr, l'œil contraint la vision puisque c'est lui qui prend les informations. Mais ensuite, votre cerveau va énormément contraindre ce que vous voyez puisque, une fois de plus, donc, on ne voit que ce qu'on a appris à voir. Donc, bien sûr, plus le cerveau est élaboré, plus on est capable d'analyser, de voir et de comprendre le monde qui nous entoure.
Alors, il y a quand même, on va faire juste une petite intrusion du côté. On a inventé, il n'y a pas si longtemps, le cinéma en relief avec des lunettes. On oblige le cerveau à une certaine gymnastique, tout compte fait, lorsqu'on reconstitue ce volume projeté sur écran.
Oui, je crois qu'on peut voir le rôle du cerveau dans la vision comme une constante adaptation aux contraintes du milieu et aux contraintes qu'on lui impose d'un point de vue perceptif.
Certains chercheurs s'inquiètent d'ailleurs de ces films 3D, en voir trop souvent et trop longtemps, pourrait perturber effectivement la vision.
Alors, pour tout ce qui est de l'expérience visuelle, il y a encore énormément de questions qui ne sont pas résolues, ni d'un point de vue de la recherche, ni d'un point de vue de la clinique. Et effectivement, il est dur, pour l'instant, de prédire les effets, soit d'une trop grande consommation d'un certain type de stimuli visuels, soit de trop d'exposition à des écrans, quels qu'ils soient. Donc, eh oui. C'est encore un grand champ de recherche.
Autour de la question, comment la vision accompagne-t-elle les tout-petits dès leur premier instant de vie? Avec Sylvie Chocron, neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS pour le livre « Comment voient les bébés » aux éditions Le Pommier. Sylvie Chocron, que préfèrent voir les nouveau-nés? Ce monde visuel du bébé est très riche, il est stimulé dès la naissance par des formes, par la lumière, par l'environnement. Alors vous dites par exemple qu'il a horreur des murs blancs. Remarquez, c'est pas étonnant, hein, il n'y a pas grand-chose à voir en fait sur un mur blanc. Comment savez-vous ce qui l'intéresse de voir ?
Alors, donc à la question, qu'est-ce qu'il préfère voir ? On pense qu'il préfère voir des objets très contrastés, et c'est sans doute dû justement à son problème d'acuité visuelle. Donc, plus vous allez présenter des choses bien contrastées, noir sur blanc, blanc sur noir, comme les livres d'ailleurs récemment qui sont sortis pour les tout-petits, hein, qui présentent des images très simples, mais vraiment très fortement contrastées, et probablement aussi des stimuli en mouvement, comme des personnes qui le regardent, qui lui sourient, qui lui parlent, parce que finalement, le stimulus préféré des bébés, c'est sans doute le visage humain. Alors, comment est-ce qu'on connaît tout ça ? Grâce à la recherche, essentiellement.
Puisque... Non, mais on ne prend pas des bébés, on ne les met pas dans des machines, et voilà.
Alors, on peut faire de la recherche sans mettre les personnes dans les machines. On peut faire de la recherche en soumettant des bébés à des tâches, même des bébés de quelques heures. Et on peut, ces tâches-là peuvent être des tâches très simples, mais néanmoins très informatives. Donc, on peut regarder...
Faire savoir quel choix...
Exactement. On peut mesurer le temps de fixation visuelle d'un bébé, sans pour autant l'embêter, outre mesure, en lui présentant des stimuli différents. Par exemple, il y a eu des expériences où on a montré un visage soit correctement organisé, soit un visage complètement mélangé, où vous auriez par exemple le nez à la place du front, les deux yeux pas alignés, la bouche verticale au lieu de la mettre horizontale.
Ils n'ont pas été traumatisés.
Alors, non, ils n'ont pas été traumatisés, mais clairement, ils préféraient regarder le visage bien organisé, dès quelques heures de vie. Donc, on sait que le stimulus préféré du bébé est un visage. Il vaut mieux d'ailleurs que ce visage soit en mouvement, qu'il sourie, qu'il le regarde de face, qu'il parle. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une appétence du bébé pour, d'une part, la vision et d'autre part, la communication. Ça, c'est très important.
Oui, c'est une éponge aussi à information.
Exactement. Et comment
voilà, les objets animés, ça doit forcément l'attirer.
Exactement. Et comme on sait que, justement, l'acuité visuelle n'est pas encore très bonne et que le centre de la rétine qui nous donnera la vision précise n'est pas encore mature, le mouvement, les grands contrastes peuvent être traités par le reste de la rétine qui est déjà là à la naissance et qui, du coup, assure cette vision très globale en mouvement et très contrasté.
Alors, contrasté mais en couleur, ça, on en reparlera.
En couleur dès le départ,
pas
plutôt
vraiment.
Contrasté noir et blanc. Le bébé va distinguer les couleurs, mais ne pas percevoir certaines couleurs.
Eh bien voilà. Alors, retour de la question pour tout savoir ce que voient les bébés. Nous le serons dans quelques instants, dans quelques minutes, juste après les infos avec notre invité, Sylvie Chocron.
Autour de la question.
Dominique Dezonnet.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour Autour de la question. Les recherches récentes en sciences cognitives ont permis de combattre quelques idées reçues. Et oui, les bébés voient dès leur naissance. Ils voient même un peu les couleurs. Ils n'aiment pas les murs blancs. Mais leur vision, sans doute, n'est pas très nette. Elle progresse rapidement pour atteindre la vision de l'adulte. Alors c'est vers 5 ans. Comment voient les bébés ? Comment utilisent-ils leur vision floue pour apprendre des autres et découvrir le monde ? Autour de la question avec notre invitée Sylvie Chocron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS.
On a cru très longtemps que les bébés apprenaient de l'extérieur. En fait, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que les bébés font des hypothèses sur l'extérieur et vont les vérifier. Donc en fait, ce sont vraiment des enfants qui ont des choses dans la tête et qui vont chercher dans l'extérieur.
Tu vois mon trait ? On s'arrête. Encore un coup et c'est fini.
Sylvie Chocron, comment le bébé découvre-t-il le monde avec sa vision très floue ?
Ben je pense qu'il apprend à voir avec cet outil qui au départ n'est pas très fiable, qui est son œil qui n'est donc pas mature, sa rétine qui ne fonctionne pas encore complètement bien, toutes les cellules qui ne sont pas encore complètement finies à la naissance. Donc je pense qu'il va y avoir une interaction dès le départ entre cet outil qui va s'améliorer et sa mémoire, sa compréhension, son analyse qui vont en parallèle aussi se développer. Oui. Et donc, peu à peu, le bébé va apprendre à voir, va apprendre à donner un sens à ses perceptions, qui sont d'ailleurs au départ non seulement visuelles, mais tactiles, olfactives. Et donc, on sait que chez le bébé, il y a un grand lien entre toutes les modalités sensorielles à la naissance qui vont contribuer chacune au développement de l'autre.
Alors, quand même, bon, on est à la radio, donc on ne peut pas voir les images, mais on a fait quand même une représentation, une photo,
une simulation,
une simulation de ce que voit le bébé, notamment peut-être le visage de... oui. d'une maman.
Oui.
C'est très flou quand même. Hein.
C'est très flou, mais ça permet...
Moi, je distingue rien. Hein.
C'est,
je reconnais pas.
Vous distinguez tout de même un visage.
Oui.
Et je pense que si ce visage était associé à une odeur, une voix et une
c'est l'interaction, en fait.
Exactement. Vous reconnaîtriez votre maman si vous étiez un bébé.
Alors, on en arrive à la neuropsychologie. On va parler des tests hein, que vous pratiquez sur les nouveau-nés. Par exemple, comment on s'est rendu compte qu'ils voyaient flou?
Alors, je pense que vous ne pouvez pas clairement examiner un bébé comme vous examineriez un adulte. Par contre, vous pouvez étudier comment un rayon lumineux se réfléchit lorsque vous le projetez sur l'œil. Et donc, vous pouvez étudier la déformation de ce rayon après qu'il ait traversé les différentes structures de l'œil et étudier donc, la capacité optique de l'œil du bébé sans pour autant avoir sa collaboration.
Alors, les troubles de la vision chez le bébé qu'on peut éventuellement diagnostiquer dès la naissance. Alors, le plus simple, comment repère-t-on, par exemple, un bébé qui naît aveugle?
Alors, donc l'examen du tout petit bébé peut concerner non seulement donc son appétit, son appétence à voir, c'est-à-dire que actuellement dans les maternités, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on présente aux nourrissons une mire. Donc les mamans ont dû voir l'examen probablement le deuxième ou troisième jour de vie. On présente une mire comme une spirale noire sur un fond blanc, et on fait fixer cette mire au bébé et on la déplace lentement, et ça permet déjà d'étudier si le bébé à capter ce stimulus visuel et s'il est capable de le suivre. Et puis par ailleurs, on peut bien sûr examiner l'œil du bébé pour vérifier que tous les constituants de l'œil sont là. Et on peut même faire passer d'autres examens en étudiant le fonctionnement de la rétine ou des voies visuelles grâce à des examens qui ressemblent à un électroencéphalogramme, mais qui vont étudier l'activité électrique exactement de la rétine, du nerf optique, voire même du cortex. Donc ça, c'est pour les cas où on se pose véritablement la question de l'intégrité du système visuel.
Alors, lorsque le bébé, dès la naissance, commence à voir, comment interprète-t-il d'ailleurs les formes, les couleurs qui l'environnent? Qu'est-ce qui se passe exactement? La machine se met en marche dans le cerveau?
Alors, on pense qu'effectivement, il commence à se construire des représentations de ce qu'il voit. On sait que le bébé est capable de reconnaître, parce qu'on peut l'habituer à voir un stimulus, un objet quelconque, puis lui présenter un autre objet et voir qu'à ce moment-là, il a une réaction à la nouveauté, ce qui prouve bien qu'il avait mémorisé ce qu'il avait vu avant. On sait aussi qu'il est capable de faire des transferts d'une modalité à l'autre. Il est capable, par exemple, de voir quelque chose et de reconnaître cet objet au toucher, ou de toucher quelque chose plus tard et de le reconnaître.
Donc voir aussi avec les doigts, les mains, le toucher.
Et c'est comme ça qu'on sait d'ailleurs que le bébé vit dans un monde où toutes les modalités sensorielles fonctionnent ensemble. Ce qui pose d'ailleurs un problème quand l'une d'entre elles ne fonctionne pas bien, parce que les autres vont forcément en pâtir un petit peu.
Alors il y a l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Est-ce que il y a, alors on disait tout à l'heure, un quart de l'occupation du cerveau par ce phénomène de la vision. Est-ce que c'est la vue qui renforce les autres sens? Comment ça
alors,
se développe?
Alors chez l'être humain, c'est vrai que la vision est une modalité de choix, parce que c'est grâce à la vision que vous allez donc reconnaître l'environnement autour de vous, que vous allez vous déplacer le jour où vous marcherez, que
puis
vous allez
vous repérer
dans l'espace.
C'est bien pratique en fait, c'est parce que c'est facile la vision.
On sait que chez l'homme, l'olfaction par exemple peut vous aider. Alors au début de la vie, certainement, parce que la relation fusionnelle avec la maman fait que l'odeur de la maman est une information très prégnante, mais au fur et à mesure où vous allez grandir, l'olfaction va être un peu abandonnée. L'audition va être importante pour l'alerte, pour faire attention à ce qui se passe autour de vous, mais on sait qu'au cours du développement, la relation va s'établir sur la base de la vision. Et on sait qu'avant de parler, le bébé va réagir au visage familier, aux personnes qui lui sourient, aux réactions qu'il va coder visuellement. Donc, bien sûr, la vision est primordiale dans l'établissement des relations avec le monde extérieur.
Et on peut évidemment parler des cas dramatiques où justement, bien ces stimuli ne sont pas là. Que deviennent les centres de la vision dans le cerveau lorsqu'ils ne sont pas stimulés dès la naissance? Alors, ils disparaissent ou...
Alors non, justement, le cerveau déteste être au chômage. Donc, le cerveau, c'est un organe qui n'attend qu'une chose, c'est de résoudre un problème quelconque dans la vie de tous les jours. Et donc, si un bébé naît avec des yeux qui ne fonctionnent pas, s'il a une cécité, donc qu'on appelle périphérique, hein, comme on le voit en ophtalmologie, les aires cérébrales qui sont dévolues à la vision vont immédiatement se mettre à faire autre chose. Et les bébés aveugles vont développer dans ces aires visuelles ce qu'on appelle par exemple le toucher pour voir, qui est un toucher qui est propre aux aveugles, que nous n'avons pas, ou en tout cas pas de manière si développée, et qui est le toucher qui va être utilisé par exemple
pour
dans le braille,
oui, voilà,
ou dans la reconnaissance tactile. Oui. Donc qui est ce toucher qui va suppléer à la vision, qui va être géré du coup non pas par les aires du toucher habituelles chez le sujet voyant, mais par les aires visuelles qui ne contribuent plus du coup à la vision, mais qui vont être impliquées dans toutes les autres modalités qui aident à la vision chez les aveugles.
Alors, petite question qui n'a rien à voir. On dit souvent que les aveugles rêvent en couleur, mais comment peuvent-ils
Alors, on sait maintenant parce
parler qu'on a fait... de couleurs aveugles de naissance alors qu'ils ne l'ont jamais vu.
Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que parce qu'on a fait des recherches sur ce sujet, c'est que les aveugles sont capables d'imagerie mentale. Ça ne concerne pas que les couleurs.
Les
aveugles
formes,
sont capables d'avoir des images mentales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur, c'est un concept qui s'apprend. Votre œil distingue des longueurs d'onde, mais votre cerveau va décider que telle longueur d'onde correspond à telle couleur, et que quel que soit l'éclairage, cet objet a l'air rouge ou a l'air vert. C'est un apprentissage. Et on peut donc concevoir que ces apprentissages et ces représentations mentales peuvent se construire même en l'absence de la vision en tant que telle.
Alors, comment voient les bébés? Comment utilisent-ils leur vision floue pour apprendre des autres et découvrir le monde? Autour de la question, avec notre invitée, hein, Sylvie Chocron, neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, on a l'impression que la vue en général est la plus formidable des illusions. Exemple des interactions entre, par exemple, une œuvre d'art, son producteur et le regardeur. Comment nos yeux parcourent-ils la surface d'un tableau? Avec Zoe Capula, directeur de recherche au CNRS du groupe Iris Vision et Motricité Binoculaire, qui était invité autour de la question à propos notamment de l'illusion de la perspective.
La question qui se pose au plan de l'œil, qu'est-ce qui se passe? On est devant un tableau et l'espace perceptif, il est tridimensionnel, il peut nous amener bien loin, des kilomètres loin. Dans quel espace notre perception se situe à chaque instant? Est-ce qu'on reste à l'espace physique ou on se promène dans l'espace virtuel, pictoral, tridimensionnel? Ces reliefs qu'on perçoit, les reliefs picturaux, va être en conflit avec l'accommodation de l'œil et avec l'angle de nos axes optiques. Il y a un conflit entre les percepts et la physiologie de notre œil. Donc, c'est pour ça qu'une œuvre d'art, c'est un stimulus physiologique, ça nous met devant un conflit sensorimoteur entre les percepts et notre physiologie de l'œil. Alors, le plus souvent, on est soi-disant debout statique devant une œuvre d'art. Mais en réalité, le corps, c'est pas une statue et c'est pas tout à fait stable. Nous avons fait en effet des expériences où on mesure les petites oscillations corporelles des gens qui sont devant des tableaux d'art et on voit qu'il y a des oscillations, des micro-oscillations qui sont liées à la perspective au relief pictural. Et on voit qu'en fonction de l'endroit où on voit dans les tableaux, si on va par exemple au niveau des vanishing points, les points de fuite, les points les plus lointains, les corps oscillent de façon plus importante.
De l'importance aussi d'observer les mouvements des yeux. En résumé, on le rappelle, aucune lumière ne rentre dans notre cerveau. C'est d'ailleurs ce que vous aviez tenté d'expliquer lors d'une conférence en 2010. Le cerveau a-t-il une âme? C'était le titre de la conférence. Sylvie Chocron, l'œil n'est pas suffisant pour voir. Léonard de Vinci l'avait très bien compris. Est-ce que les bébés, lorsqu'ils voient pour la première fois, considèrent que tout ce qui les entoure est une œuvre d'art?
bien. Alors, je ne sais pas s'il considère... Alors, il y a deux questions. Je ne sais pas s'il considère que c'est une œuvre d'art et je ne sais pas si c'est la première fois qu'il voit.
Voilà, j'aimerais bien qu'on y arrive parce que vous nous dites aussi, vous laissez entendre, mais on n'en est pas sûr encore, hein, que effectivement, avant la naissance, dans le ventre de sa mère, bébé voit.
Alors, c'est une grande question qui anime énormément la recherche dans ce domaine-là et pour laquelle, effectivement, on n'a pas de preuves. Ce qu'on sait, c'est que le système visuel fonctionne et certainement fonctionne à vide. Pendant la in utero, donc oui. Pendant la grossesse. Donc on sait qu'il y a une activité électrique dans les aires cérébrales visuelles. On sait que la rétine envoie des décharges au cerveau comme si en quelque sorte le bébé rodait son système visuel pour qu'il soit prêt à la naissance.
Ça tourne à vide.
Ouais. Ce qu'on sait aussi, c'est que le bébé ouvre et ferme les yeux. In utero, la qualité qui est bien améliorée maintenant des échographies pendant la grossesse permet de voir que le bébé ouvre les yeux, qu'il a des mouvements oculaires et permet aussi de quelquefois de voir le bébé s'orienter à une lumière qui pourrait être projetée à l'extérieur. Donc on sait que le bébé va réagir à des différences de lumière. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça de la vision? Je ne suis pas sûre, sachant la complexité de toutes les opérations qui interviennent quand on voit au sens de reconnaître, apprendre, analyser.
Mais la lumière arrive jusque dans...
Oui. On le sait, il y a des différences d'éclairage, bien sûr. Et donc, on sait que la lumière va traverser les milieux et que la lumière, il va y avoir des changements d'éclairage au sein de la cavité utérine. Ça, on le sait. On sait par ailleurs que donc, le système visuel fonctionne et donc on sait que le bébé ouvre les yeux et on sait qu'il a des mouvements oculaires. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on peut appeler ça de la vision? Est-ce que le bébé a une expérience visuelle en tant que telle? Pour l'instant, on n'a aucune idée de la réponse à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que cette question va animer les recherches pendant les années qui viennent.
Oui, avant, il regarde ses mains, il joue...
Alors, il utilise ses mains,
il tourne la tête, mais il les regarde pas.
Voilà. Donc, on sait que le bébé va avoir tout un tas de comportements in utero. Maintenant, en quoi ces comportements sont vraiment à l'image de ce qui se passera quand le bébé va naître, ça reste une question.
Alors, ce que voit un bébé, on n'en sait pas grand-chose parce qu'on n'en a en fait aucun souvenir.
Alors oui, il y a la question de l'expérience et du souvenir. Je dirais que ce n'est pas qu'on n'en a aucun souvenir parce que très probablement, dans la mesure où on apprend à voir, tous ces apprentissages vont se recouvrir au cours des années. Donc finalement, si on voit à l'âge adulte tel qu'on en fait l'expérience, c'est aussi grâce à ces visions, cette vision très précoce.
De la question comment on voit les bébés, ou peut-être même comment on nous voit les bébés, comment utilisent-ils leur vision dès les premiers jours pour apprendre et des autres et découvrir le monde, avec notre invitée Sylvie Chocron, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, avec aussi une séance d'interrogation alors de Benoît de Solmignac, présentateur sur RFI.
Bonjour Madame Chocron, des chercheurs de Grenoble ont mis en évidence un résultat selon lequel la perception visuelle des nouveau-nés était plus attirée par des mouvements dits biologiques, typiquement produits par les humains, comme par exemple celui d'agiter les mains. Comment font les nouveau-nés pour différencier les mouvements humains de l'infinité d'autres mouvements ?
Alors, moi, j'ai essayé de reformuler la question, mais enfin, on l'a très bien compris. Ces chercheurs ont vraiment mis en évidence qu'on était beaucoup plus attiré immédiatement par un mouvement fait par quelqu'un. Autrement dit, est-ce qu'il y a une part importante d'inné dans la vision humaine ?
Alors, effectivement, toutes ces recherches posent la question de l'interaction entre l'inné et l'acquis. Et il y a plusieurs données convergentes sur, effectivement, la voix humaine, sa propre langue, la voix de sa maman, les mouvements biologiques, les visages, qui sont tout autant de stimuli, de stimulations qui vont intéresser le bébé de manière préférentielle. Donc ça relance le débat inné-acquis et récemment, c'est le professeur Axel Kahn qui, en discutant la question de l'inné et l'acquis justement autour du développement, disait que la bonne réponse à cette question, c'est que dans le développement il y a 100% d'inné et 100% d'acquis. Et
en fait,
la bonne réponse, c'est ça.
On se trompe peut-être sur la définition.
Exactement.
Hein. C'est quelque chose qui nourrit nourrit l'autre, qui,
exactement,
qui est imbriqué.
Exactement. Je pense que la bonne réponse à cette question, c'est que pour qu'un être humain se développe comme il doit se développer, il faut que 100% de l'équipement et du pré-câblage, justement, et de cette espèce d'attirance pour ce qui serait important pour nous soit présent à la naissance, et que le milieu fournisse à l'équipement les stimulations adéquates.
Alors, toutes vos recherches, Chocron, portent sur les troubles neurovisuels. Comment vous rééduquez la vue, par exemple, chez un nourrisson? Quelles techniques on emploie?
Alors, je dirais que chez un nourrisson, on va pas dire qu'on rééduque la vision, mais on va dire qu'on lui apprend à voir de manière un petit peu adaptée si jamais ses yeux, ses voies visuelles ou son cerveau ne fonctionnent pas comme il devrait. Donc on va proposer des stimulations qui vont être bien évidemment les stimulations les plus pertinentes, les plus prégnantes. Donc on va stimuler le bébé avec de la lumière dans l'obscurité, qui est le stimulus le plus important, si je puis me permettre la redondance, ouais, le plus stimulant, voilà, ouais, pour le cerveau. Et donc on va aussi lui proposer des stimuli très très contrastés et qui l'intéressent, et le forcer à aller fixer ses stimulations et à les suivre. Et pour le forcer, on va s'aider des autres modalités sensorielles qui, elles, fonctionnent bien. Donc on va toujours associer la vision, qui peut être déficitaire, à l'audition, au toucher, voire même à l'olfaction ou au goût, pour donner envie de le voir.
Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui supprime, par exemple, le toucher.
Et au fur et à mesure, voilà, exactement. Donc au départ, on va associer toutes les autres modalités, et au fur et à mesure, on va supprimer les autres modalités pour ne laisser que la vision, et donc apprendre au bébé à reconnaître, à percevoir, à détecter, à analyser, uniquement sur la base de la vision.
Alors, parlons pas simplement des bébés, mais c'est parce que le cerveau est capable d'une grande plasticité, il s'adapte énormément, qu'on peut par exemple réapprendre à voir à des aveugles, mais pas mécanique, après par exemple un accident cérébral.
Oui, exactement. Je dirais que c'est parce qu'on apprend à voir, déjà, c'est parce que la vision repose sur un système qui est lui-même d'emblée très plastique et qui va s'adapter, qu'on peut ensuite sans doute réapprendre à voir. Donc on sait qu'après une lésion cérébrale, les régions dans le cerveau qui étaient vraiment dévolues à l'analyse visuelle, à la détection visuelle, sont lésées. Mais on sait aussi maintenant que contrairement à tout ce que les ophtalmos ont appris, tous les médecins ont appris jusqu'il n'y a pas longtemps.
Oui, l'histoire n'est pas pliée.
Voilà, on pensait que la perte était définitive et que si on perdait la vision à cause d'une lésion cérébrale, on ne pouvait pas récupérer cette fonction. Or, depuis plusieurs années, à la Fondation Rothschild et dans d'autres endroits, on sait maintenant qu'on peut restaurer la vision et qu'on peut donc spécialiser des régions cérébrales qui n'étaient pas au départ faites pour cette fonction pour réapprendre à voir. Et on peut réapprendre à voir ou apprendre à voir de la naissance jusqu'à des âges très avancés de la vie, ce qui est très rassurant.
Alors, pour en revenir à nos bébés, vous pensez qu'actuellement, et c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être le domaine du social, que cette fable qu'il naît aveugle, enfin qu'il ne voit pas à la naissance, continue de nos jours dans les maternités. Ça continue?
Alors, je dirais que actuellement, on est sans doute face à un paradoxe, c'est-à-dire que on nie les compétences du bébé, qu'elles soient visuelles ou cognitives, c'est-à-dire dans le discours général, on continue à dire que le bébé ne voit pas grand-chose, qu'il ne comprend pas grand-chose, qu'il se rendra pas compte si c'est sa maman ou quelqu'un d'autre qui est là. Donc il y a un discours général qui tendrait à nier les compétences du bébé, mais à côté de ça, on sent quand même les cliniciens et les parents de plus en plus ouverts à des dépistages précoces, en particulier chez les bébés à risque, ce qu'on doit évidemment développer.
Mais pourtant, je crois, on teste dès la naissance, par exemple, la capacité d'un nouveau-né à marcher, voilà, qui perd très vite, d'ailleurs, même celle du toucher, etc. Pourquoi il n'y a pas le test obligatoire pour savoir si, par exemple, il voit ou s'il y a un problème de vue?
Alors, il y a un test obligatoire qui est la perception de cette fameuse mire et le suivi de cette fameuse mire très contrastée. Donc, on sait au moins si le bébé est sensible ou pas à la vision. Par contre, ce qui fait défaut actuellement, c'est plus l'étude de comment le bébé se sert de sa vision, puisqu'on sait qu'un bébé peut repérer une mire noir et blanc, mais par exemple n'avoir que très peu d'intérêt pour son environnement visuel parce qu'il ne le comprend pas. Et donc, du coup, au-delà de tester simplement le fonctionnement de l'œil, je pense que ce qui serait vraiment très important, c'est de pouvoir tester l'appétence et l'intérêt visuel des bébés, parce qu'on sait que dans certaines pathologies, comme l'autisme, il va y avoir un défaut de contact visuel, un défaut d'échange par le biais de la vision, qui va être très important et très néfaste dans le développement des interactions avec le monde extérieur.
Et ça, c'est assez nouveau sur l'autisme, qu'on dise qu'il y ait peut-être un problème avec les centres visuels.
Alors, ce qu'on connaît de mieux en... Enfin, on arrive à caractériser de mieux en mieux les troubles dans l'autisme. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on sait que les autistes ont une perception visuelle particulière. On sait qu'il y a une plus grande occurrence de troubles visuels chez les autistes par rapport à la population normale. Et pour certains cliniciens, l'absence de contact visuel est même le signe le plus évident d'un trouble du spectre autistique. Donc, c'est dire l'importance de la vision. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le rôle du trouble visuel dans l'apparition des traits autistiques ? Et on est très investi dans notre équipe sur l'étude de ce lien, parce qu'on sait que des bébés qui voient mal peuvent développer des traits autistiques, et on sait que des enfants autistes ont une perception visuelle particulière. Donc on s'intéresse actuellement beaucoup au lien entre les deux.
Alors, en vous remerciant Sylvie Chocron pour cette vision passionnante de la vie des nourrissons, hein, je rappelle que vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, que vous avez écrit avec Arlette Stréry, Comment voient les bébés, dans la collection Les petites pommes du savoir aux éditions Le Pommier. J'aimerais quand même vous poser une petite question personnelle. Si on échangeait nos cerveaux, alors je vous garantis que vous n'allez pas gagner au change. Est-ce que je verrais les mêmes couleurs, les mêmes formes ? Est-ce que j'aurais la même vision que vous ? Enfin, alors, c'est une grande question.
C'est vrai, vous avez raison. C'est une
Est-ce
question
qu'on voit la même chose
qui motive aussi beaucoup les cinéastes, hein, parce que ou les romanciers. C'est un grand sujet aussi d'un point de vue des fictions. Donc, je pense que pour voir la même chose, il faudrait peut-être échanger nos yeux, nos voies visuelles, nos cerveaux, et puis toutes nos expériences surtout, tout ce qu'on a vécu. Donc, en quelque sorte, il faudrait que vous ayez été moi, que j'ai été vous depuis la naissance.
Donc,
et là,
vais...
on aurait une chance de savoir ce que l'autre voit.
En vous remerciant, autour des questions, c'est fini. Demain, nous nous intéresserons aux animaux. Dans quelques instants, les infos.